chapitre 55, versets 1 à 9, page 832. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez les plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voies sont bien au-dessus de vos voies, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées.
Il est estimé que pendant cette journée, vous aurez été exposé en moyenne à 1200 publicités, semble-t-il. Que ce soit par les panneaux publicitaires ou alors par les publicités sur vos smartphones, sur Internet, à la télévision. Vous avez été sollicité pour acheter tel ou tel produit, assurance, aliments, abonnements, vêtements. Et cette invitation que nous venons d'entendre pourrait facilement se noyer dans la masse de tous ces produits à consommer. D'autres choses pourraient passer au premier plan de cette invitation lancée par Ésaïe. On pense peut-être à une invitation dans la semaine, on pense à telle soirée qu'on va passer avec des amis, ou au resto, faire un musée, ou telle autre invitation à regarder un match. Fait même de l'évoquer, c'est peut-être pas une bonne chose. Mais ça pourrait facilement passer au premier plan et laisser l'invitation d'Ésaïe en second plan. Mais pourquoi l'écouter alors ? Pourquoi écouter cette invitation d'Ésaïe ? Je vous suggère trois réponses sur la base de ce texte. Parce que l'invitation est sans pareil, dans les versets 1 à 3. Parce qu'elle vient d'un roi incomparable, dans les versets 3 à 5. Parce que nous avons besoin de changer, dans les versets 6 à 9. Nous sommes dans une série qui s'intitule « Qui sommes-nous ? » Quel est ce peuple que Dieu rassemble ? Et on va voir que cette invitation lancée par Dieu dit quelque chose de notre identité. Et on commence pour la question « Pourquoi répondre à cette invitation ?» par la première, parce que cette invitation est sans pareil. En écoutant Ésaïe, la lecture du texte, là, est-ce qu'on a l'impression qu'on a affaire à un vendeur un peu trop zélé ? Vous entendez tous les impératifs, les « venez, 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 écoutez, écoutez, écoutez ». Est-ce qu'on n'a pas tendance face à quelqu'un d'aussi enthousiaste pour ce qu'il propose d'être un peu méfiant ? Est-ce qu'il en fait un peu trop, là ? Mais l'enthousiasme d'Ésaïe est tout à fait légitime lorsqu'on pense au contenu de son message. Pour plusieurs raisons. D'abord, l'invitation n'a pas de pareil parce qu'elle concerne tout le monde. Elle concerne tout le monde. On trouve les traces de deux catégories de personnes dans les versets 1 et 2. Il y a d'abord ceux qui n'ont rien, ceux qui ont soif. Venez, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Et dans ce premier groupe, on pourrait avoir en tête des personnes qui ont cette soif, qui ont ce sentiment de besoin spirituellement, qui se savent en banqueroute, qui ont besoin d'entendre, de recevoir. Et j'imagine que si nous sommes là ce soir, c'est qu'il y a une certaine soif, qu'il y a un certain besoin en vous, si vous êtes venu ce soir. Mais Ésaïe s'adresse aussi à une deuxième catégorie, ceux qui ont de l'argent, mais en leur disant « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? » Ils ont de l'argent, mais ils investissent ou ils achètent, ils travaillent pour des choses qui ne satisfont pas. Ils n'ont pas simplement besoin d'être guidés, dirigés vers l'eau. Ils ont besoin d'être interpellés, remis en question. Là, on pense à des personnes qui ont toutes sortes d'investissements dans leur vie, un sens qu'ils pensent être légitime, mais Esaïe veut les interpeller sur le sens creux qu'ils donnent à l'existence. Deux catégories de personnes. L'équipe Semer est sortie mardi soir à Montparnasse, et aussi hier matin sur l'avenue de Breteuil. Et ils ont rencontré ces mêmes deux catégories de personnes. Il y avait d'une part ceux qui ont montré de l'intérêt, qui avaient une certaine recherche, une certaine soif, mais ils ont aussi rencontré des personnes qui n'étaient pas spécialement intéressées et qui avaient besoin d'être interpellées. Mais l'invitation, la bonne nouvelle qui est annoncée, elle concerne tout le monde. Pourquoi est-ce qu'elle concerne tout le monde? On arrive à la deuxième raison, c'est qu'elle répond à un besoin essentiel, un besoin essentiel. Comment définir la publicité? Je mentionnais la publicité tout à l'heure. Comment la définir? Voici une définition avec un peu d'ironie. La publicité est l'art de convaincre les gens de dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas pour des choses dont ils n'ont pas besoin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est peut-être un peu trop critique vis-à-vis de la publicité. Mais Esaïe, ici, nous parle de quelque chose dont on a besoin. Entendez-le, il parle de soif. Venez vers l'eau, vous qui avez soif. Et ce besoin essentiel, il est aussi décrit en termes de nourriture, au verset 2. Difficile de trouver des besoins plus essentiels que manger, boire. Si on ne s'alimente pas à terme, on meurt. On tâchera de mieux comprendre ce que cette eau, cette nourriture signifie par la suite, mais il renvoie à un besoin essentiel. Et ce n'est pas le seul endroit dans la Bible où ces images de la nourriture et de l'eau sont utilisées. Pensez par exemple à ces paroles du Deutéronome. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Plus essentiel encore que la nourriture. Ou on pense à Jésus qui a cette conversation avec la Samaritaine et qui lui parle d'une eau qui étanche la soif et qui deviendra comme une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la Bible, comment elle se termine? Avec cette invitation, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau, de la vie, la prenne gratuitement. Cette invitation, elle est sans pareil parce qu'elle répond à un besoin essentiel. Et troisième particularité de l'invitation, c'est qu'elle est généreuse et gratuite. Généreuse et gratuite. L'eau n'est pas la seule boisson mentionnée dans ces versets. Vous avez entendu l'allusion au vin, au lait. On connaît l'aspect essentiel de l'eau, mais que faut-il penser du lait, du vin? J'imagine si on est français, on est rassuré de voir le vin dans la liste. Mais au-delà, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est pour parler des différents âges, pour les plus jeunes le lait, pour les plus âgés du vin? Plus simple, c'est de comprendre ces références comme une variété dans l'offre, la richesse de l'offre qui est proposée. On le retrouve quand il est question de nourriture. On n'est pas invité à recevoir du pain sec. Il est question, au verset 3, de plats succulents à déguster. C'est la générosité de Dieu qui est mise en évidence. On le relève aussi dans le paradoxe du verset 1. « Venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Mais est-ce qu'il faut acheter ou est-ce que c'est sans payer? Est-ce qu'il faut sortir le portefeuille sur la table ou ne pas le sortir? Montrer la carte de crédit ou pas? Là encore, c'est la générosité de Dieu qui est mise en évidence. Nous ne sommes pas invités à une soupe populaire, mais à un banquet. C'est un peu comme si un ami vous invitait dans un restaurant étoilé et il vous dit, alors que vous êtes installé à table, « Tu peux prendre tout ce que tu souhaites. » Et à la fin, c'est lui qui prendra la note. C'est lui qui paiera l'addition. On le prend gratuitement, mais c'est lui qui paye. On en entendra un écho dans les évangiles lorsque Jésus dit « Un homme m'organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais quelle est la réaction des invités ? J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer. Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Et qu'est-ce qu'on répondrait, nous, à l'invitation ? Qu'est-ce qu'on répondra à l'invitation ? Est-ce qu'on dira, je veux bien la mettre dans la liste de mes options, mais ce n'est pas sûr. Je veux bien la garder sous le coude, mais pour le moment, je ne suis pas si intéressé que ça, en fait. Peut-être que par la suite, je serai vraiment intéressé. Cette invitation, elle est sans pareil. Est-ce qu'on va la refuser ? Mais il nous faut passer à la deuxième raison. Pourquoi répondre à cette invitation ? C'est parce qu'elle vient d'un roi incomparable. Elle vient d'un roi incomparable. J'imagine qu'on a tous le souvenir d'un produit ou d'un restaurant qui n'a pas été à la hauteur de nos attentes. Vous pensiez acquérir un produit, vous avez pensé à un restaurant, vous avez fait vos devoirs, vous avez lu des recommandations, mais au moment de découvrir le produit ou alors le restaurant, c'est tout simplement pas à la hauteur de ce que vous espériez. Qu'est-ce qui nous garantit la qualité de ce banquet qui nous est proposé ? La triple invitation dans les versets 1 à 3, « Venez, venez, venez » est suivie d'une triple invitation à écouter, écouter, écouter. Mais elle est elle-même suivie d'une triple garantie. Ce banquet est garanti par une alliance. Et cette alliance, c'est le roi qui s'en porte garant. Et ce roi, c'est Dieu qui s'en porte garant. Au centre de cette triple garantie, il y a la mention de David. Comment comprendre cette référence à David ? Après tout, Ésaïe rédige 3 siècles après ce roi, et il parle ici de promesses à venir. Dans les versets 3 à 5, on trouve effectivement des promesses qui remontent dans le temps, dans le passé. Vous en avez entendu parler dimanche dernier, cette alliance avec David, mais qui vont plus loin et qui nous concernent. Cette alliance qui traverse l'histoire, concerne un roi, appelé ici David. Il est présenté comme témoin, comme roi, mais il ne sera pas seulement témoin pour un peuple, Juda, mais pour tous les peuples. Il ne sera pas seulement à régner sur un peuple, mais sur tous les peuples. Il ne va pas simplement appeler une nation à venir à lui, mais toutes les nations à venir à lui. Et ce n'est pas d'une nation que les gens accourront vers lui, c'est de toutes les nations qu'ils accourront. Et la raison pour laquelle les gens accourent, c'est parce que la splendeur de Dieu lui est donnée. Dieu l'a revêtu de splendeur. Qui est ce David ? Dans la première partie d'Ésaïe, on entend l'annonce d'un roi qui est choisi par Dieu, qui est appelé à être lumière pour les nations, à régner sur les nations. Mais qui est-ce David ? À quoi est-ce que ça nous fait penser ? Quant à la splendeur dont il est revêtu, on pense peut-être au mont de la Transfiguration, où on entend ces paroles, où les disciples ont entendu ces paroles au sujet de Jésus. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » On pense peut-être à Zachée qui, quand il entend que Jésus vient dans sa ville, court. Il est tellement pressé de le voir qu'il est prêt à grimper dans un arbre pour le voir. On entend les réactions de la foule lorsque Jésus guérit un paralysé. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu, remplis de crainte. Ils disaient « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Ce banquet est garanti par une promesse, une alliance qui a traversé les âges. Et Dieu ne revient pas sur ses promesses. Ce banquet est garanti par un roi incomparable. Et personne ne sera déçu par Jésus. Ce banquet est garanti parce que Dieu, le Seigneur, le Saint d'Israël, l'a recouvert de sa splendeur. Et on se priverait du banquet. On dirait que la recommandation, elle n'est pas très fiable. Et Jésus n'est pas un roi incomparable simplement par ses miracles. Là encore, Ésaïe est intéressant. Dans sa première partie, jusqu'au chapitre 40, il parle d'un roi, mais à partir du chapitre 40, il parle en termes d'un serviteur. Un serviteur. Et l'articulation des chapitres 53, 54, 55 est intéressante. Chapitre 53 est précisément un chant consacré au serviteur. Et qu'est-ce qui nous est dit de ce serviteur? Je vous cite un extrait. « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Au chapitre 54, dès les deux premiers versets, il est question d'une famille qui doit s'agrandir. Il est question d'une tente qui doit s'élargir. Et vous l'avez compris. Au chapitre 55, par cette invitation, nous sommes appelés à rejoindre cette famille, à remplir cette tente. Parce que le serviteur a fait tout ce qu'il fallait pour que tout soit prêt. Ce banquet auquel il nous invite, c'est lui qui l'a payé. Et il l'a payé très cher. Il l'a payé de sa vie. Il l'a payé à la croix. Et on lui tournerait le dos. Et on estimerait trouver mieux ailleurs. On aurait des préoccupations plus importantes. On n'aurait pas besoin de lui. Il nous faut maintenant entendre la troisième raison pour laquelle nous devrions écouter cette invitation, parce que nous avons besoin de changer, dans les versets 6 à 9, parce que nous avons besoin de changer. Il y a des invitations qu'on ne devrait pas refuser si on est dans son bon sens. Imaginez une consultation chez votre médecin de famille, vous êtes troublé par des symptômes importants, et vous lui en parlez à votre médecin. Il vous écoute, il vous ausculte, il a l'air préoccupé. Et après un temps de réflexion, après un temps de silence, il vous dit la chose suivante. Je vous invite à consulter tel spécialiste. Ou je vous invite à aller faire un scanner et à revenir vers moi. Est-ce qu'on refuserait une telle invitation? Non, ça va, c'est bon. Je vais très bien, merci. Je ne ferai pas ça, non. Dans ces versets 6 à 9, Ésaïe nous donne des raisons essentielles pour écouter l'invitation. Le chapitre 55 a la structure d'un chiasme, et ici on entre dans le centre du chiasme, au cœur de cette invitation. Pourquoi répondre à cette invitation? Parce que nous avons un problème. Parce que nous avons un problème. Dans toute la première partie, on a entendu des appels triples, et c'est le cas ici aussi. Dans les versets 6 et 7, on trouve un appel triple à changer. On pourrait aussi parler en termes de repentance. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas un changement, une repentance qu'on trouve simplement au début du cheminement dans la foi, mais tout au long de notre cheminement, où que l'on soit. Le premier appel consiste à rechercher l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire rechercher l'Éternel? Ça peut sembler compliqué quand on essaie d'y réfléchir. On commence où? On cherche comment? On s'y prend comment? Mais Ésaïe l'explicite par une expression parallèle toute simple. Faites appel à lui. Notez que ce n'est même pas le terme de la prière. La prière, ça pourrait nous faire peur. Comment prier? Qu'est-ce que je vais dire? Quel mot est-ce que je vais utiliser? Mais ici, il s'agit simplement de faire appel à lui. faire appel à lui. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens à mon secours. Pas plus compliqué que cela. L'intérêt de l'expression, ce n'est pas uniquement sa simplicité, c'est aussi qu'elle contraste avec toutes les fois où Judas a fait appel à d'autres choses, à d'autres personnes. Ils ont fait appel à des idoles dans les moments de difficulté ou en songeant à l'avenir. Ils ont fait appel à d'autres alliances des peuples, l'Égypte, pour appui. Et nous aussi, n'est-ce pas ? On a cette même tendance à faire appel à d'autres choses, toutes sortes. Faire appel à des spécialistes, faire appel à Internet, faire appel à d'autres personnes plutôt qu'à Dieu. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas seulement chercher conseil. Le problème, c'est que ce n'est pas se tourner vers Dieu qui est le premier concerné, le premier qui puisse nous aider. Le premier appel consiste donc à faire appel à lui, à le rechercher. Mais d'autres choses ont besoin de changer. Au verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. C'est reconnaître que nos pensées, notre manière d'agir est souvent marquée par le péché. Terme fort quand vous l'entendez, méchant, homme injuste, et peut-être qu'on a de la peine à se reconnaître dans la description. On se dit, mais ça c'est un peu trop fort pour moi ça. Sauf que on doit entendre Jésus qui nous dira dans les évangiles, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Il faudra bien qu'on se reconnaisse dans le personnage si on va venir à Jésus. Nous avons besoin de changer parce que nos voies, nos pensées sont mauvaises. Et troisièmement, notre besoin de se changer, le besoin de changer, c'est pas seulement reconnaître qu'on est pécheur, mais c'est revenir à Dieu, retourner à Dieu. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais ça me fait penser à la parabole que Jésus raconte au sujet de deux fils. Fils prodigue qui vient vers son père et qui demande à son père sa part d'héritage. Il part, il veut vivre des biens de son père, mais loin de son père. Et quand il sera au plus bas, il se souvient de la maison de son père. Il retourne et son père est là à le guetter. Il le prend dans ses bras. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un banquet, le veau gras. Retourner à Dieu, c'est reconnaître l'offense que nous faisons à Dieu lorsque nous estimons que cette vie et tout ce que nous avons nous appartient et que nous pouvons la vivre sans référence à lui comme nous voulons. De le reconnaître et ensuite de retourner à lui, de revenir à lui en comptant sur sa compassion. C'est là qu'il nous faut comprendre le sens du banquet. Qu'est-ce qui signifie ce banquet? Qu'est-ce qu'il représente? Le contexte large et immédiat nous dit que le banquet représente le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu. Chapitre 53, si le serviteur meurt à la place des coupables, c'est pour qu'il soit pardonné. Et venir au banquet, comme on le voit ici, c'est expérimenter le pardon de Dieu. Venir à lui et expérimenter son pardon. Et l'abondance du banquet se retrouve dans l'abondance du pardon. C'est bien du pardon dont il est question ici. Avec un banquet. Et il est possible qu'en écoutant cela, on ne sente pas vraiment l'appel à venir à ce banquet. Faire appel à lui d'abandonner ses mauvaises voies, ses mauvaises pensées, et de revenir à lui. Mais pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Ésaïe poursuit avec des paroles qu'on a souvent mal comprises au verset 8 et 9. « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Comment est-ce qu'on a tendance à comprendre ces versets? On entend parfois dire que les voies du Seigneur sont impénétrables. Et si c'est vrai, et si ça se trouve à d'autres endroits dans la Bible, que nous ne comprenons pas toujours les voies, les pensées de Dieu, qu'elles nous échappent, ce n'est pas le sens de ce texte ici. Dans la lignée de ce que Ésaïe a écrit un peu plus tôt, en décrivant par exemple notre péché, au chapitre 53, il parle de brebis qui chacune suit sa propre voie. Notre problème, c'est que nos voies sont définies par nous-mêmes, centrées sur nous-mêmes, que nous voulons définir notre vie à notre façon, centrées sur nous-mêmes. Et vous voyez l'écart avec les voies de Dieu? Dans toute cette invitation, vous entendez l'écart qu'il y a entre notre manière de réfléchir et la manière de réfléchir de Dieu. Il est en train d'inviter des méchants, des hommes injustes, à sa table, à vouloir les pardonner au prix de la vie de son fils. Ça, ce sont ses voies, ça, ce sont ses pensées. Alors que nous, nous sommes centrés sur nous-mêmes, pensant à notre vie exclusivement. Alors oui, nous sommes invités à venir à lui. Et il y a un sentiment d'urgence, tant qu'il est prêt, tant qu'il est temps. Je vous invite à quelques instants de silence avant de prier, une prière que vous pourrez faire vôtre si vous le souhaitez. Seigneur, nous voulons faire appel à toi, dire notre besoin de toi, reconnaître que nos voix, nos pensées ne sont pas justes. Nous voulons revenir à toi, dire notre émerveillement face à ce banquet qui nous est généreusement proposé, notre pardon au prix de la vie de ton propre Fils. Accorde-nous dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, de venir à ce banquet, de faire appel à toi, de saisir la grandeur de cette invitation sans pareil. Au nom de Jésus. Amen.